Oublions jamais de placer les choses en perspective.
Ça aurait dû être une grande célébration.
C'est quand même gros ce qu'on évoque là.
Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé.
Un professeur, pas comme les autres. Luc La Liberté.
Bon lundi, Luc.
Oui, bon lundi, Alexandre.
Alors, victoire démocrate, après vraiment tout un marathon pour voter un projet de loi qui est historique.
Écoute, et un nouveau mème pour les amateurs de Bernie Sanders, on se rappellera, hein, de la photographie de Bernie à la sermentation avec ses mitaines, sa veste. Il y en a un nouveau au terme d'une nuit particulièrement mouvementée, et là on parle au plan législatif et négociation. Bernie est couché dans les marges du Capitole et il a l'air exténué. Et depuis, donc, hier, ça circule un peu partout. Donc, s'il y avait des amateurs de même de Bernie. Puis, c'est après une des nombreuses colères de Bernie Sanders qui, malgré le succès démocrate, faisait ressortir ce qu'il manque dans ce projet de loi. Mais sinon, donc, pour les démocrates et pour le président Biden, c'est 740 milliards donc qu'on va investir au terme de ce marathon de vote. Pourquoi un marathon de vote en passant? Parce qu'on avait le droit aussi bien du côté républicain que du côté démocrate d'y aller d'amendement au projet de loi qui finalement est passé. Donc, il fallait soit les accepter ou les rejeter, mais on a voté toute la nuit. Mais tout ça pour dire que Biden et les démocrates en ressortent avec une victoire. Une victoire où, pour une rare fois au Sénat, on est en mesure de serrer les coudes puis de voter du même bord si on est un démocrate. Et ça vient ajouter une réalisation de plus au bilan de Joe Biden. Et ce qui m'étonne, quand on regarde objectivement, je pense, les résultats depuis un an et demi, presque deux ans maintenant de présidence Biden, c'est qu'il commence à avoir une bonne feuille de route de réalisation, malgré des faiblesses, malgré des hésitations. On lui reproche souvent aussi d'être âgé, de manquer de dynamisme et d'énergie. Je suis de ceux, d'ailleurs, qui pensent pas qu'il devrait revenir en 2024. Mais la feuille de route, elle commence à être, dans un contexte de polarisation particulièrement brillante. Et écoute, je fais juste énumérer rapidement des choses que le président a faites. Et il y a là-dedans des mesures qui sont, si c'est pas historique, pas loin. Dans le contexte de la COVID, il avait fait voter le American Rescue Plan, donc des investissements pour venir en aide, un peu comme on a eu, nous, ici, des mesures pour soutenir ceux qui étaient plus affectés par la COVID. Il faut pas oublier qu'il a fait voter un grand plan d'infrastructure, de création d'emplois. C'est le président qui a nommé la première femme noire à la Cour suprême, donc c'est une juge plus progressiste et la première femme noire. Même si la loi était trop timide aux yeux de ceux qui espèrent qu'on va régler le problème définitivement, est-ce qu'il y en a encore qui rêvent à ça, mais il a fait voter une loi sur les armes à feu. Il a fait voter une loi aussi pour encourager, soutenir la production de semi-conducteurs dont on manque cruellement un peu partout, entre autres dans l'industrie automobile. Et c'est lui qui a ajouté aussi une meilleure couverture médicale pour les vétérans de l'armée américaine. Si on connaît bien le contexte américain, la division entre républicains et démocrates, mais même les divisions au sein du Parti démocrate, c'est pas banal ce que je viens d'énumérer là. Et on ajoutait à ça la semaine dernière ce qu'on considère être une réalisation. Actuellement, c'est apprécié de la population américaine. L'élimination du chef d'Al-Qaïda, le cerveau des attentats du 11 septembre 2001, Al-Zawahiri. Donc, tout ça pour dire, on le critique souvent avec raison. L'inflation reste très élevée aux États-Unis, mais il y a quand même un nombre d'indicateurs qui démontrent que Joe Biden, peu importe ce que vous en dites, les mesures qu'on passe sont assez musclées. Et j'ai envie de te dire, ça c'est plus subjectif, mais enfin des mesures adaptées à la réalité du 21e siècle. Il y a des mesures là-dedans, entre autres ce qu'on vient de voter, là, cette enveloppe budgétaire très généreuse, ou en tout cas, peut-être pas assez généreuse, mais au moins on va dans la bonne direction pour lutter contre les changements climatiques. Ce sont des mesures du 21e siècle et non pas un retour vers un passé glorieux qu'on regrette, ce que proposait M. Trump, entre autres, dans son discours d'investiture en 2017.
Ouais. Le point sur l'avortement en Indiana, on assiste à l'autre extrême après le Kansas.
Ben voilà, puis je parle encore une fois de M. Biden, mais il se réjouissait, lui, du résultat du référendum au Kansas qui, on avait eu, c'est une surprise pour à peu près tout le monde, là, un peu plus de 58% des électeurs qui disaient on veut pas changer, nous, l'accès à l'avortement au Kansas, puis c'est très important pour les femmes du Kansas et pour les femmes aussi de cette région-là, parce qu'il y a des États voisins qui, eux, interdisaient l'avortement ou presque. Donc, on avait dit, ben, victoire, ça démontre que ça peut être une question de l'urne. Et quand on les questionne sur le sujet, les électeurs veulent maintenir le droit à l'avortement. En Indiana, cette fois, on est directement passé par la législature. C'est pas un référendum, donc c'est pas un son de cloche émanant de la population, des électeurs eux-mêmes. Mais à toute fin pratique, on empêche tous les avortements. On ne garde que des cas extrêmes, le viol, l'inceste, puis bien entendu la santé du fœtus, du bébé à venir, ou encore la santé de la mère, si dans les deux cas, leur vie est en péril. Sinon, toutes les autres façons d'accéder à l'avortement, toutes les autres dispositions sont rayées. Donc, quand on dit que c'est une question qui divise, qui polarise, on a deux résultats qui sont aux extrêmes, en Indiana et au Kansas, à l'intérieur d'une même semaine. Inutile, je pense, de dire qu'il faut continuer à surveiller ça parce qu'il va y avoir de nombreux autres États et dans certains cas, des référendums, ça va venir avec les élections de mi-mandat. Là, je pense que la Californie, par exemple, qui utilise souvent le recours au référendum pendant des élections là, présidentielles ou de mi-mandat. Donc, on va avoir d'autres résultats intéressants pour voir quel sera l'avenir du recours à l'avortement dans l'ensemble des 50 États.
Et un mot en terminant, Luc, sur deux livres qui vont paraître bientôt.
Si votre budget livre sur la politique américaine n'est pas déjà épuisé, ou si encore vous êtes capable, j'ai envie de te dire, si vous êtes capable d'en prendre sur l'administration Trump, peut-être que votre seuil de tolérance est déjà atteint ou dépassé depuis longtemps. Il y a deux livres à venir bientôt. Donc, un de Maggie Haberman, qui est une chroniqueuse du New York Times, qui est connue. Son ouvrage s'appelle « Confidence Man ». Et on l'aura deviné, en plus, Maggie Haberman, le président Trump, la déteste, même s'il la lit régulièrement. Elle y va de nouvelles confidences de proches ou de personnel de la Maison-Blanche autour de ce que faisait M. Trump. Et l'aspect le plus spectaculaire et discutable, je pense qu'on peut le dire comme ça, c'est que, je ne sais pas si tu te souviens ou nos auditeurs se souviennent, on a régulièrement dit que le président Trump détruisait des documents à la Maison-Blanche et que dans certains cas, il les éliminait avec les toilettes. On a des photos de toilettes obtenues par Maggie Haberman, des toilettes à l'étranger quand le président est en voyage et qu'il éliminait ces documents-là, et des photos de toilettes de la Maison-Blanche. Si votre seuil de tolérance n'est pas atteint, en tout cas, le mien est né à ce moment.
Ça y prend un bon plombier au Donald, avec ses archives.
J'ai pas le budget d'infrastructure de la Maison-Blanche, mais il y a certaines infrastructures qui ont dû être prises d'assaut. Et l'autre bouquet à venir, qui personnellement m'intéresse un petit peu plus, c'est Susan Glasser, puis M. Baker, qui collabore aussi régulièrement avec le New York Times, mais qui écrivent un livre qui s'appelle « Divider », donc « Le diviseur ». Et il y a là-dedans, parmi les extraits qui circulent déjà, quelque chose qui, pour l'administration Trump, est une fois de plus un sacré coup à la crédibilité, c'est le général Milley, qu'on a souvent vu à la télévision. Là, il a été au Joint Chief of Staff, là, les chefs d'état-major. C'est quelqu'un dont la feuille de route ne peut à peu près pas être critiquée. Là. C'est quelqu'un dont on ne doutera pas ni du patriotisme, ni des compétences ou des qualités. Et on a mis la main sur la lettre qui, finalement, il n'a jamais envoyée parce que l'administration Trump a été battue puis il a quitté, ou en tout cas, il n'a plus eu à collaborer avec Donald Trump. Mais c'est une lettre dans laquelle il démissionne et il dit au président « Je m'en vais ». Et vous commettez des torts irréparables au système américain, à la démocratie américaine. Donc, général Milley, là, il a servi sous des républicains et des démocrates, comme les autres. Ce qu'il devrait servir, lui aussi, c'est la Constitution américaine. Alors, cette lettre-là risque de faire très, très, très mal. Surtout que M. Trump a déjà dit du bien de M. Milley. Ce serait pas la première fois qu'il dit du bien avant de dire du mal. Oui. Il nous a dit.
La liste est longue.
Ben voilà. Sinon, donc, ce sont les deux ouvrages dont je voulais te parler. Celui associé, bien entendu, maintenant à jamais à des photos de toilettes impliquant le président américain. Et dans l'autre, un des généraux les plus décorés et les plus respectés aux États-Unis qui dit « Ce que fait le président Trump, ça provoque des torts irréparables. C'est possible qu'on ne s'en remette pas.
» Non, il ne cessera jamais de nous surprendre, le Donald. Merci beaucoup, Luc. À mercredi.
Et une bonne journée.
Bye-bye.